Vous êtes avec SBS French.
Et on commence avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. On fera un point en Ukraine et les bombardements qui continuent un peu partout dans le pays. Un visa humanitaire temporaire pour les Ukrainiens a été accordé en Australie. En Australie du Sud, le parti travailliste qui évince les libéraux après seulement un mandat. Et on parlera bien entendu de sport et la victoire du 15 de France dans le tournoi des 6 nations avec la manière et le grand chelem. Une première depuis 12 ans. Et on commence donc en Ukraine, les bombardements qui se poursuivent un peu partout dans le pays. Des dizaines de personnes ont été tuées dans une frappe contre une caserne militaire dans le sud du pays. Il y avait environ 200 soldats qui dormaient dans des baraquements lorsque 6 roquettes sont abattues donc sur la caserne. La Russie affirme avoir utilisé des missiles hypersoniques et c'est probablement une première dans des combats réels. Ces missiles atteignent des vitesses telles qu'ils ne peuvent pas être interceptés par les défenses adverses. Au sud, direction au sud donc du pays, à Mariupol, et après des quelques semaines de bombardements, et bien place désormais au combat au sol. Le point sur la situation avec Anastasia Bikiou.
Les combats au sol se poursuivent entre les forces russes et ukrainiennes. La ville assiégée connaît des bombardements intenses depuis des jours. La situation humanitaire est catastrophique. Les camions d'aide ne peuvent pas passer. Quelques 350 000 habitants se trouveraient encore à Mariupol. Ces derniers jours, plusieurs centaines de personnes ont quand même réussi à quitter la ville sous les tirs incessants. C'est le cas de Pavel Gomziakov, un photographe avec sa femme et son fils.
Il n'y a plus aucun moyen de communication. Pas de radio, pas de nourriture, pas d'eau. Mon Dieu, c'est une horreur, c'est un enfer. Et une infime majorité de la population a pu s'extraire de cet enfer. C'est notre cas. Et maintenant, l'objectif de ma vie est d'hurler, d'être la voix de tous ces gens qui sont restés coincés. Mes parents sont restés là-bas. Je n'ai plus aucune nouvelle depuis le 10 mars. Je ne sais pas s'ils sont en vie.
Inquiétude aussi quant au sort des personnes qui avaient trouvé refuge dans le théâtre en plein centre de Mariupol. Les autorités ukrainiennes ont accusé l'aviation russe d'avoir sciemment bombardé le bâtiment où des centaines de personnes avaient trouvé refuge, ce que la Russie a démenti. Jusque-là, 130 survivantes étaient extirpées des décombres, mais plusieurs centaines de personnes pourraient être encore bloquées à l'intérieur, les frappes et les combats rendant impossibles les opérations de sauvetage.
C'était Anastasia Bekio, sur place pour RFI. Je vous le disais en titre, le gouvernement fédéral offrira un visa humanitaire temporaire aux Ukrainiens arrivés en Australie. Ce visa sera valable 3 ans et permettra aux gens donc de travailler, d'étudier et également d'accéder à Medicare. Le gouvernement a également annoncé une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine et fournira du matériel supplémentaire. L'Australie fera également de dons d'au moins 70 000 tonnes de charbon pour aider à fournir l'énergie au pays et donc à l'Ukraine. Et elle a également interdit les exportations d'alumine et de minerais d'aluminium vers la Russie. Cette mesure est conçue pour limiter la capacité de la Russie à produire de l'aluminium, qui est donc une des principales exportations de la Russie. La Russie dépend de l'Australie pour près de 20% de ses besoins en alumine. Direction la Grande-Bretagne maintenant, le Premier ministre Boris Johnson a lui déclaré qu'il était vital que Vladimir Poutine échoue en Ukraine, affirmant qu'une victoire donnerait le feu vert aux autocrates et autres dictateurs du monde entier. On écoute Boris Johnson.
A victorious Putin will not stop in Ukraine, and the end of freedom in Ukraine will mean the extinction of any hope of freedom in Georgia and then Moldova. It will mean the beginning of a new age of intimidation across the whole of Eastern Europe, from the Baltic to the Black Sea. And if Putin succeeds in crushing Ukraine, it will be the green light for autocrats everywhere, in the Middle East, in the Far East.
Voilà, donc c'était Boris Johnson à la conférence de son parti sur bien l'état des lieux en Ukraine et en Russie. Il est 13h05. C'est une image qui aura fait couler beaucoup d'encre ces dernières heures. 3 cosmonautes russes en partance pour la station spatiale internationale. Mais à leur arrivée sur le pas de tir, ils étaient vêtus de bleu et de jaune, les couleurs du drapeau ukrainien. Stéphanie Schuller.
Accolade et rire. Oleg Artemiev, Denis Matviev et Sergei Korzakov sont accueillis chaleureusement par l'équipage sortant de la Station Spatiale Internationale, 2 Russes, 4 Américains et un Allemand. Un détail n'échappe à personne. En débarquant sur l'ISS, les 3 cosmonautes russes portent des combinaisons jaunes et bleues. Alors que leur arrivée est diffusée en direct par l'agence spatiale Roscosmos, Oleg Artemiev justifie le choix de la couleur par un surplus vaste tissu jaune dans l'entrepôt chargé de confectionner les combinaisons. Mais dans le monde entier, les internautes y voient au contraire une prise de position contre la guerre en Ukraine et saluent le courage des astronautes russes. La vidéo de leur arrivée sur l'ISS fait un tel buzz que l'agence spatiale russe se voit obligée d'y répondre. Les combinaisons du nouvel équipage sont fabriquées aux couleurs de l'emblème de l'Université technique d'État à Moscou, dont les trois cosmonautes sont diplômés, explique Roscosmos sur la messagerie Telegram. Avant de conclure, vouloir voir le drapeau ukrainien partout, c'est fou.
13h07, direction l'Australie du Sud maintenant, où les électeurs ont élu un gouvernement travailliste dirigé par Peter Maloniskas. Le parti travailliste est donc en passe de détenir au moins 25 sièges dans l'Assemblée sur les 47 sièges disponibles. Dans son discours de victoire, le premier élu a déclaré que ses partisans que la victoire du parti travailliste offrait à l'Australie méridionale une occasion de se remettre de la pandémie. On l'écoute.
When we look back on this moment, in 20 years' time, let them say that this generation was the new reconstruction generation. Let them say that we took this opportunity to deliver an economy that left no one behind. Let them say that we took this opportunity to invest in education, training and skills so that every young person could fulfill their potential. Let them say. Let them say that this generation realized the opportunity of a clean energy future and all the jobs it can provide.
Voilà donc une partie du discours de victoire du nouveau premier pour l'Australie occidentale, Peter Maloniskas. On va écouter d'ailleurs de son côté, s'adressant à ABC, le sénateur libéral Simon Birmingham a déclaré que la leçon à tirer du résultat de ces élections, elle est pour les gouvernements fédéraux, et c'est enfin de s'assurer que les électeurs comprennent très clairement ce qu'il est en jeu s'ils élisent un parti dirigé par Anthony Albanese. On l'écoute.
We also remain very determined to make sure Australians understand the choice ahead of them. And that choice is between a strength of leadership and a strength of economic management our government's delivered with 1.7 million more jobs created, and Anthony Albanese in a Labor Party, and in Anthony Albanese, a leader who's never seen a higher tax that he hasn't supported at some stage, and whose credentials in terms of economic management or national security are completely untested.
Le sénateur libéral Simon Birmingham. Et dans le reste de l'actualité, c'est également la pandémie et ce fait marquant. La Chine a enregistré ses premiers décès du Covid depuis plus d'un an. Reportage de Léo Sira pour RFI.
Les premiers décès chinois du Covid apparaissent comme un symbole. Symbole d'abord du succès de la politique chinoise zéro Covid depuis 2 ans. En tout, la Chine, pays le plus peuplé du monde, a enregistré 4638 morts, même si on peut douter des chiffres officiels. Même en les multipliant par 2 ou par 10, le bilan sanitaire de la stratégie chinoise est excellent. Grâce à ces mesures drastiques, la Chine a évité des millions de décès. Mais ces 2 morts du Jilin sont aussi le signal du moment difficile dans lequel se trouve la Chine. Les mesures qui ont fonctionné avec les variants précédents sont moins efficaces face aux variants Omicron ultra contagieux. Des provinces et des métropoles sont à nouveau confinées. Le zéro Covid coûte de plus en plus cher. Aujourd'hui, la Chine ne sait pas comment sortir de sa stratégie zéro Covid, car sa population est très peu immunisée naturellement, ses vaccins sont peu efficaces et ses seniors sont peu vaccinés. L'exemple de Hong Kong a de quoi inquiéter. Aujourd'hui, le territoire chinois est celui qui enregistre le plus de morts par habitant au monde.
Allez, un mot de Formule 1 pour conclure ce journal sport et le monégasque Charles Leclerc qui s'élancera en pole position ce soir du Grand Prix de Bahreïn, premier Grand Prix de la saison. Il devance le champion du monde en titre, Max Verstappen. Lewis Hamilton s'élancera 5e. Les deux Français Gasly et Ocon seront respectivement 10e et 11e. Et l'Australien Daniel Ricciardo s'élancera, lui, à la 18e place. Un point météo pour finir ce journal pour aujourd'hui. À Perth, il fera 28 degrés aujourd'hui. Adélaïde, 31. À Melbourne, vous aurez 24 degrés. Hobart, 23 degrés. Canberra, 27. Il fera 25 degrés à Sydney. Brisbane, vous aurez 28 degrés. Cairns, 32. Et Darwin, 35 degrés.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.